Il est 7h.
On se sent très seul, donc des événements, quand ils sont remontés, l'objectif c'est de ne pas faire de vagues. Et c'est plus de la colère envers l'institution.
Des profs qui se sentent seuls, abandonnés face à la difficulté d'aborder certains sujets en cours. Ils étaient nombreux à manifester hier, notamment à Paris, en hommage à leurs collègues assassinés. 11 jours entre un cours sur la liberté d'expression et un acte terroriste insensé. 11 jours qui ont conduit le meurtrier à perpétrer ce crime. Nous retracerons la chronologie du drame. Hier soir, le gouvernement a promis des réponses politiques après le Conseil de défense à l'Élysée. La peur va changer de camp, promet Emmanuel Macron. Dans ce journal également, la difficulté de trouver du personnel pour les EHPAD, une nouvelle formation est expérimentée en Occitanie. Et puis les professionnels du tourisme démoralisés à Marseille avec le couvre-feu. Les touristes ne se bousculent pas.
Juste après ce journal, le Brexit. Londres qui envisage un no deal. Vives inquiétudes des milieux économiques autour de l'idée d'une rupture sans accord. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. Après l'attentat de vendredi, pourquoi est-il si compliqué de renvoyer les ressortissants tchétchènes? Le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport de Virginie Fulpin. Et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Samuel assassiné, des milliers de profs toujours debout. C'est l'un des slogans de la manifestation parisienne en hommage à Samuel Paty, ce prof d'histoire géo décapité par un jeune terroriste islamiste.
Des dizaines de milliers de personnes ont crié leur colère et leur émotion dans plusieurs villes de France. Et parmi elles, de nombreux enseignants qui, eux aussi, ont parfois du mal à évoquer les questions de laïcité.
Sur ma pancarte, il y a « Je suis enseignante, libre d'enseigner la liberté ». On en a marre et moi je regrette qu'on en soit arrivé là. On ne l'a pas écouté cet enseignant.
Des professeurs désemparés face à la pression de parents d'élèves. C'était le cas de Monsieur Paty, c'est aussi celui de Valérie, institutrice en Seine-Saint-Denis.
Les comportements agressifs de certains parents par rapport à la religion, on les a. Des garçons qui ne veulent pas tenir la main dans le rang à une fille. Des petites filles qui ne viennent pas à la piscine parce qu'elles ne veulent pas se déshabiller. Ça fait des années qu'on a ça et c'est dramatique.
Dans la foule, une collègue raconte aussi ce cours de français sur un texte de la Bible qui a indigné plusieurs de ses élèves. Des tensions telles que certains enseignants frôlent l'autocensure.
Je me suis dit, mais bon, les caricatures de Charlie Hebdo, pour parler de la liberté d'expression, il y avait plein d'autres choses. Non, j'aurais évité de mettre de l'huile sur le feu.
Pourquoi ?
Non, je fais attention.
Car ses professeurs le disent, en cas d'incident, la direction préfère la discrétion, le huis clos.
On se sent très seul, donc des événements, quand ils sont remontés, l'objectif c'est de ne pas faire de vagues. Et c'est plus de la colère envers l'institution.
Une institution qui, admet l'enseignante, cède souvent en faveur des parents. Nous, professeurs, dit-elle, on ne fait pas le poids.
Reportage Place de la République à Paris, signé Romain Oquet. 11 personnes sont toujours en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête. Des proches du tueur de 18 ans, mais aussi un militant islamiste connu de la police, Abdelhakim Sefrioui, et un parent d'élève. Deux hommes qui ont lancé la campagne de mobilisation contre l'enseignant.
Le sort de Samuel Paty semble en effet avoir été scellé en une dizaine de jours. Tout a commencé le 5 octobre avec un cours sur la liberté d'expression dans une classe de 4e du collège de Conflans-Sainte-Honorine.
Et c'est ce cours qui a lancé la polémique. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Avec vous, on va retracer cette succession d'événements qui a conduit au drame. Ce jour-là, l'enseignant montre à ses élèves des caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo. Et tout s'emballe.
Oui, et deux jours après le cours, un parent d'élève demande dans un message sur Facebook le renvoi du professeur. Une demande réitérée dès le lendemain face à la principale du collège. Il est alors accompagné d'un activiste islamiste, Abdelhakim Sefrioui, qui est au cœur de l'enquête aujourd'hui. Mais le rendez-vous n'apaise pas du tout sa colère. Le père publie une première vidéo. Il donne le nom de Samuel Paty. Il le traite de voyou. Et dans la foulée, l'homme dépose plainte avec sa fille de 13 ans pour diffusion d'images pornographiques, car l'une des caricatures représente Mahomet nu.
Quatre jours avant l'attentat, Samuel Paty va lui aussi déposer plainte pour diffamation.
Oui, parce que les policiers lui montrent la vidéo du père de famille. L'enseignant leur dit aussi que la collégienne en question n'a pas assisté à son cours. Et ce même jour, le père publie une seconde vidéo. Sa fille est même interviewée par Abdelhakim Sefrioui. Et dans le même temps, la direction du collège reçoit des parents d'élèves pour apaiser les tensions, sauf le père en question qui refuse de rencontrer Samuel Paty et de se rendre au commissariat local. 14 octobre. Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle. Ces enregistrements sont vus des milliers de fois, relayés y compris par le terroriste. Peu avant l'attaque, il demande à des élèves devant le collège de lui désigner Samuel Paty.
Gladys Laffitte, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, dément que l'enseignant était menacé d'une sanction, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux. Même démenti du rectorat de Versailles.
Comment en est-on arrivé là? C'est la question que tout le monde se pose. Sébastien Pietrasanta a été prof d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine, lui aussi.
Ancien député, il est rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats de 2015 et lui dénonce les petites lâchetés qui ont conduit à cet acte terroriste.
Ça m'a à la fois ému et puis forcément choqué, interpellé, mais d'une certaine manière, pas forcément surpris, c'est ça qui est particulièrement triste. Il y avait un contexte qui a encouragé cet attentat terroriste. On a un certain nombre de petites lâchetés qui font que on abandonne une partie du terrain. Et c'est vrai que parfois, on a le sentiment de vouloir fermer les yeux, de se dire « c'était pas le moment pendant le procès de Charlie Hebdo de montrer les caricatures, c'était trop dangereux ou trop provoquant ». Là, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de céder un certain pan de notre liberté d'expression au nom de cette volonté de ne pas froisser une partie des musulmans. Et c'est juste insupportable.
Sébastien Pietrasanta au micro Europe 1 de Marion Gauthier.
7h06 sur Europe 1. Dans la soirée, un nouveau conseil de défense s'est réuni à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. 2h30 de réunion et un plan d'action.
Oui, dès aujourd'hui, des procédures vont viser les auteurs de 80 messages de soutien aux tueurs. Le chef de l'État veut accélérer et intensifier sa lutte contre l'islamisme. Il attend les propositions de plusieurs ministres. Adrien Beck.
À partir de ce soir, les islamistes ne dormiront plus tranquilles en France. Ce sont les mots martiaux d'Emmanuel Macron hier soir en conclusion du Conseil de défense. Décisions immédiates comme en réaction à l'attaque de vendredi. Dans les prochaines heures, arrestations et contrôles viseront des personnes et associations qui propagent un discours de haine. Pour le reste du concret, il faudra attendre un peu. Le président veut adapter le projet de loi sur le séparatisme dont il a présenté les grandes lignes il y a 15 jours. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation devront lui faire des propositions dans les prochains jours. Le sujet des réseaux sociaux sera aussi traité pour détecter les indicateurs de passage à l'acte, notamment volonté présidentielle, aller vite et fort. On est sous pression, les hommages, ça ne suffit plus, confie un conseiller. D'autant que l'opposition est déjà en embuscade pour instruire un procès en inaction.
Et selon nos informations, le ministère de l'Éducation nationale travaille sur un hommage à Samuel Paty pour la rentrée dans toutes les écoles de France. Hommage qui aura aussi une vocation pédagogique.
Difficile, voire impossible de recruter du personnel pour les EHPAD en pleine période, en pleine reprise du Covid. Et un couvre-feu qui stoppe net le tourisme à Marseille. On va en parler dans la suite du journal de 7h. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h09 sur Europe 1, la suite du journal. Hélène Zélani.
Près de 30 000 cas positifs, 2 000 malades en réanimation. Les indicateurs du Covid s'aggravent avec aussi une nette augmentation du nombre de cas dans les EHPAD. Ça concerne toutes les régions.
Parallèlement, les établissements pour personnes âgées n'arrivent pas à recruter, surtout des aides-soignants. En Occitanie, on expérimente un nouveau dispositif auquel Benjamin Péter s'est intéressé. Reportage à Toulouse.
On sent une fatigue des équipes et donc elles sont peut-être plus souvent en arrêt maladie. D'autre part, dès qu'il y a des positifs ou dès qu'il y a des cas contacts, on les isole pour sécuriser au maximum nos structures et donc on a besoin de remplaçants. Et c'est souvent là que ça coince.
Les candidats sont rares pour ces remplacements. Martine Danès, qui préside le CINERPA dans la région et dirige plusieurs structures, le constate tous les jours. Les formations trop généralistes, puisque les aides-soignants peuvent travailler aussi bien à l'hôpital qu'en EHPAD. Alors pour trouver plus vite des gens mieux formés, elle a mis en place avec Pôle emploi et la Croix-Rouge une nouvelle formation.
On peut être amené à prendre des personnes qui ne sont pas diplômées pour s'occuper des personnes âgées. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. D'où la création de ce diplôme. On a mis sur pied une formation qui s'appelle l'accompagnant en gérontologie, qui en 3 mois permet à une personne, avec des temps de stage et des temps de cours, d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer un EHPAD en toute sécurité. Peut-être qu'après, cette personne évoluera vers aide-soignante ou un autre métier du soin, mais en tout cas, très vite, on peut la former et lui donner un bagage.
Une première promo est sortie l'an dernier, donc 90% est actuellement en activité, une autre est en formation, et c'est à la fin de l'année que l'expérimentation devrait déboucher sur la certification de ce diplôme. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Troisième soirée de couvre-feu à Paris et dans 8 métropoles. Certains profitent des vacances pour rejoindre les villes où on peut encore sortir le soir.
Et du coup, à Marseille, le secteur du tourisme fait grise mine. Il constate une dégringolade des réservations pour la Toussaint. L'impossibilité de se balader ou de dîner au restaurant a, semble-t-il, découragé de nombreux vacanciers. Nathalie Chevance.
Ciel bleu, mer d'huile, carte postale de vacances. Mais autour du Vieux-Port, presque aucun touriste. Les hôtels sont déserts, 15% de réservations contre 80% l'an passé à la même époque. Certains professionnels préfèrent rester fermés. Pour Nicolas Guyot, président des hôteliers indépendants, le couvre-feu, c'est le coup de grâce.
Nous n'avons quasiment pas de tourisme. Et lorsque les restaurants vont mal, quand le monde de la nuit va mal, quand les bars vont mal, la croisière également, eh bien, nous en payons les pots cassés et c'est le cas aujourd'hui. Des hôtels dans les Bouches-du-Rhône s'apprêtent à fermer pour réouvrir probablement en mars ou avril l'année prochaine. Ça fait 25 ans qu'on se bat pour du tourisme à Marseille et presque on dirait que c'est un château de cartes qui s'est écroulé.
Et pourtant, les professionnels multiplient les opérations séduction en expliquant qu'en zone d'alerte maximale, il est possible de profiter de ses vacances. Loïc Chauvelon, président du comité régional du tourisme.
Il faut garder raison. On peut prendre le bateau pour aller visiter les Calanques. On peut aller sur les îles. On peut faire une rando dans le pays de Cézanne à côté d'Aix-en-Provence. Cette période qui peut paraître anxiogène permet malgré tout de profiter de la destination et surtout des tarifs extrêmement compétitifs.
Effectivement, 100 euros sont offerts pour une nuit achetée sur le territoire. Malgré tout, il y aura pour la Toussaint deux fois moins de visiteurs que l'an passé. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis le foot, Lille a largement remporté son derby face à Lens hier soir 4-0 et prend du même coup la tête de la Ligue 1. Le PSG est deuxième du classement, Rennes troisième.
Merci Hélène Zélani, il est 7h12.